L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu, toujours pour partager quelques versets bibliques sur la parabole du Samaritain avec Jonathan Junior Mambou. Bonjour frère.
Bonjour et bonjour à vous qui nous suivez présentement.
Merci pour cette disponibilité, ce temps de sacrifice, que le Seigneur te bénisse, te le rende au centuple.
Amen.
Avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter à baisser la tête dans la prière pour dédier le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur. Prions. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous voici devant toi pour entendre ta parole, pour entendre ton message, pour entendre le serviteur que tu as choisi, Jonathan Junior Mambou. Père, bénis-le, oins-le, utilise avec puissance, Seigneur, avec autorité. Utilise-le, Seigneur, afin qu'il nous transmette, ta connaissance, ton intelligence, ta parole. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen.
Jonathan Junior, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui sur cette parabole du Samaritain?
La parabole du Samaritain, une parabole riche, avec
très riche,
beaucoup d'enseignements.
Très riche.
Depuis qu'on a commencé, on parle de cet homme qui était à Jérusalem, qui quitta Jérusalem et qui descendit vers Jéricho. Et nous regrettons beaucoup pour tous ceux qui choisissent de faire comme cet homme, parce qu'en quittant Jérusalem vers Jéricho, on prend en fait la mauvaise décision, car cet homme, en cours de route, avait rencontré des brigands qui le rouèrent de coups et le laissèrent à demi-mort. Nous avons bien dit que Jérusalem, c'est la communion avec le Seigneur, c'est la maison de Dieu, la maison de paix, c'est le lieu où il nous est demandé de rester. Mais lorsque nous quittons Jérusalem pour aller à Jéricho, eh bien, nous rencontrons des brigands, nous rencontrons l'ennemi, ce qui n'est pas une bonne chose. Ceci me fait penser à ce texte de Exode chapitre 12, verset 23, où la Bible nous dit ceci, parlant de l'acte pascal de l'époque. Je suis dans le verset 23, la Bible dit « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Ici, dans ce texte, on nous parle de ce fléau destructeur qui fit en sorte que les Égyptiens décident de laisser Israël de sortir d'Égypte. En fait, là, le dernier fléau, c'était que Dieu allait permettre aux destructeurs de frapper à tous les premiers-nés qui vivaient en Égypte. En commençant du premier-né de Pharaon jusqu'au premier-né des animaux, c'était comme ça. Mais seulement ceux qui allaient être épargnés, c'était ceux qui allaient mettre devant leur porte le sang de l'agneau sur les linteaux. Donc chacun devait tuer un agneau dans sa maison et prendre le sang et mettre devant les linteaux. Et quand l'ange, sur les linteaux je voulais dire, et quand l'ange destructeur devait passer et en voyant le sang sur les linteaux, il n'allait pas entrer parce que ils étaient protégés par le sang, selon l'ordre que le Seigneur avait donné. Un peu une image pour nous dire que nous également, si nous demeurons à Jérusalem, eh bien l'ange destructeur ne nous touchera pas.
Tout à fait.
Il ne nous touchera pas, nous serons protégés. C'est un peu l'image de cet homme. Il était à Jérusalem, les brigands l'ont touché seulement quand il a quitté Jérusalem.
Bien sûr, nous sommes dans
Luc chapitre 10.
Luc chapitre 10, la parabole va du verset 30 jusqu'au verset 37.
Voilà.
Pour ceux qui
veulent se référer à ce texte.
D'accord.
Il était à Jérusalem. Là, s'il était resté à Jérusalem, les brigands n'allaient pas venir. Mais quand il a quitté Jérusalem, il a eu des problèmes. C'est la même chose avec cet événement du temps d'Exode, si je peux le dire. Tous ceux qui ont habité dans des maisons dans lesquelles leur linteau n'était pas peint de sang, eh bien, ils ont vu leur premier-né mourir.
Tous ceux qui habitaient des maisons qui n'ont pas fait alliance avec l'Éternel étaient des maisons qui allaient être frappées par l'ange destructeur. Jérusalem, c'est une sorte de maison.
Oui.
Parce que Jérusalem veut dire maison aussi. C'est une sorte de maison qui est en alliance avec l'Éternel.
Oui. Et cette alliance est conclue par le sang de Jésus-Christ, le véritable agneau. L'agneau des dieux qui ôte le péché du monde. Parce qu'en fait, l'acte de l'agneau, de l'agneau qu'on tuait dans chaque maison à l'époque de Moïse, ne préfigurait que Jésus-Christ de Nazareth. Eh bien, ce n'était plus un problème d'argent, parce qu'en fait, en Égypte, il y avait des gens qui avaient de l'argent, mais l'ange destructeur ne regardait pas ceux qui ont l'argent. Donc, si vous n'avez pas peint votre maison de l'alliance par le sang de l'agneau, eh bien, vous étiez frappés. Ils ont vu leur premier-né mourir.
Tout à fait.
L'ange destructeur n'a pas tenu compte de tel monsieur parce qu'il est notable, de tel autre parce qu'il est ceci, cela. Non, mais l'ange destructeur a vu le sang. C'est pour dire que si nous restons dans la maison de paix, c'est-à-dire à Jérusalem, l'ange destructeur ne nous touchera pas. Certes, nous ne voulons pas dire que quand on est chrétien, on n'a pas des problèmes. Quand on est chrétien, on a des problèmes. Ça, c'est vrai, ça arrive. Mais ce qui est mieux et intéressant, tant que nous resterons dans la maison, il sera avec nous. C'est ce qu'on nous demande, c'est de faire comme la Bible où Paul nous exhorte d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera pour nous un culte raisonnable. Le culte raisonnable, je le lis. Romains 12, 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions des dieux, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est ce que Dieu nous demande, que nous puissions offrir nos vies au Seigneur. Celui qui vit, il va à l'église, mais il n'a jamais offert sa vie au Seigneur. En fait, c'est quelqu'un en fait qui s'expose aux brigands, qui en fait, sans le savoir, a quitté déjà Jérusalem pour Jéricho. Parce qu'en fait, il va par exemple à l'église simplement dimanche, peut-être parce qu'il n'a pas le temps, mais en réalité...
Parce qu'il s'ennuie tout simplement.
Oui, mais en réalité, il ne sait pas ce que c'est de donner sa vie au Seigneur, parce qu'il vit dans le mal, il choisit le mal comme son vêtement, et bien que cet homme la sache... que les brigands vont se moquer de lui, vont l'assaillir. Restons attachés à Jésus, c'est-à-dire restons à Jérusalem, et nous serons toujours les hommes les plus heureux. C'est très important, parce qu'en fait, la Bible le dit pour nous, le diable rôde autour de nous, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et quand la Bible dit que le diable rôde autour de nous, cherchant qui il va dévorer, ce n'est pas de la blague. C'est vraiment ce qui est dit.
Une réalité.
Oui, doit être prise au sérieux.
Détruire.
Oui, la destruction qui doit provenir de l'ennemi est une réalité. C'est pas de la blague. Jésus-Christ nous dit que l'ennemi vient, mais je n'ai rien de lui en moi. Pourquoi il disait cela? Il le disait parce que si l'ennemi venait et qu'il trouvait quelque chose de lui en vous, ben il aura une porte pour entrer, pour détruire. Parce que l'ennemi a toujours une mission de faire quoi? De détruire.
Voler, égorger et détruire.
Oui. Jean chapitre 10, verset 10, pour ceux qui cherchent ce texte. Nous devons rester à Jérusalem pour ne pas nous créer des problèmes. Et les grands problèmes que nous nous créons, ce sera d'ouvrir la porte à l'ennemi à pouvoir se saisir de nous. L'ennemi, c'est un accusateur. Il nous accuse, comme pour Job, il est allé accuser Job, lui disant que je dois le toucher, je dois toucher assez bien. Le Seigneur voyait la communion qu'il avait avec Job. L'ennemi a frappé Job, a touché Job. Là, c'est Dieu qui a permis ça. Mais si j'ai pris cet exemple, mon frère, c'est pour montrer tout simplement que Satan, c'est un accusateur. On l'appelle l'accusateur de nos frères. Pourquoi? Parce qu'il nous accuse. Et quand il nous accuse, c'est pour dire, j'ai droit à toucher Jonathan, j'ai droit à toucher Raphaël, j'ai droit à toucher Junior, j'ai droit à toucher Marie-Jeanne, j'ai droit à toucher. Pourquoi il accuse? Parce qu'il veut faire du mal, il veut détruire. Pourquoi il veut détruire? Parce que Satan sait sa destinée. Il sait qu'il a été destiné pour l'enfer. L'enfer a été préparé pour lui. Il le sait. Mais il sait aussi qu'il n'ira pas seul. Il doit tout faire pour entraîner à sa suite des milliers d'hommes. Parmi ces hommes, il y a des ignorants. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. C'est pour ça que nous parlons de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a Dieu a déversé dans le monde des bons serviteurs aussi. Pour ôter beaucoup de gens de l'ignorance. Parce que quand on est dans l'ignorance, on ne sait pas, mais on est en train de s'entraîner pour aller en enfer. Parce qu'on se détruit sans le savoir. Mais la connaissance nous épargne de ces choses. Et nous aide à rester à Jérusalem. Je voudrais lire un texte encore. Une scène qui s'est produite au temps d'Israël. Dans Samuel chapitre 4, versets 1 à 22. C'est un long texte, c'est vrai. Mais ici, pour ce peuple, ce n'était pas un peuple ignorant. Israël, c'est un peuple qui connaissait Dieu. Mais en ce temps, ces enfants d'Israël marchèrent dans la désobéissance vis-à-vis de Dieu.
1 Samuel, chapitre 4,
versets 1 à 22, c'est très long. Je vais le lire petit à petit. On commence au premier verset. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près des Ben Ezer. Et les Philistins étaient campés à Afek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël. Et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Si nous arrêtons là, Israël fut battu parce qu'il avait choisi de quitter Jérusalem pour descendre vers Jéricho. Un peu pour dire qu'il avait commencé à marcher loin du Seigneur, loin de la loi de Dieu. Il a commencé à désobéir à la loi de Dieu. Et ça, ce sont des exemples qui nous concernent. Toutes les fois que nous choisissons de ne plus marcher conformément à la parole, nous serons battus par l'ennemi. Nous allons perdre le combat. Ça, c'est très important. Ce sont des exemples vrais. Israël, c'était le peuple choisi des dieux. Si Dieu a permis que son peuple soit battu, c'était aussi pour nous montrer que toutes les fois que nous marcherons loin du Seigneur, nous serons battus. Nous allons connaître des défaites face à l'ennemi. Ça, c'est très important.
Verset 2.
Le verset 3, au contraire. On a lu le verset
2. Ah, non, tu n'as pas lu.
Ah bon. Les Philistins, le verset 2. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent, « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins ? Allons chercher à Silo l'arche de l'Alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. » Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'Alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Eli, Ophni et Phiné étaient là avec l'arche de l'Alliance. En fait, l'arche de l'Alliance représentait beaucoup.
La présence de Dieu,
comme tu viens de le dire. Parce que Dieu descendait sur l'arche pour parler aux enfants d'Israël. Et Dieu était dans l'arche, c'est-à-dire la parole de Dieu qui était dans l'arche, c'était Dieu lui-même. Et la renommée de cette arche était connue de beaucoup de peuples. Ils savaient que le Dieu de ce peuple était un Dieu puissant. D'ailleurs, le Dieu de ce peuple avait délivré à main forte Israël face aux Égyptiens en les frappant de plusieurs maux et en les conduisant d'une manière extraordinaire. Dieu les conduisait la journée par une colonne de nuée, Dieu les conduisait la nuit par une colonne de feu, Dieu les nourrissait d'une manne qui ne venait pas de la terre mais du ciel. Donc ce sont des choses qui dépassaient les peuples. Et cette tâche représentait beaucoup pour le Dieu, comme tu viens de le dire, la présence de Dieu. Et lorsque les Philistins ont appris que l'arche de Dieu était entrée dans le camp d'Israël, ils avaient tremblé. Je continue au verset 5. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Leur joie, c'était voilà, maintenant on était battu, maintenant l'arche est venue. La présence de Dieu lui-même, il est là, donc on va gagner. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins. Et ils dirent, donc les Philistins, ils dirent, que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée. La présence de l'arche les a amenés à dire, ah, c'est fini, c'est Dieu lui-même qui est venu. Ils avaient raison d'avoir peur. Ils avaient raison, mais ils avaient oublié une chose. Ils avaient oublié que bien que l'arche était dans le camp, mais Israël lui-même traversait un temps tel que la gloire n'était plus avec eux. Parce qu'en fait, la gloire de Dieu, la gloire d'Israël, c'était Dieu lui-même.
Tout à fait.
C'est vrai, l'arche était là, mais Dieu n'était pas avec eux.
Ils avaient les signes extérieurs, oui. Ils avaient les symboles qui pouvaient représenter Dieu, mais Dieu n'était pas, parce que justement, ils avaient quitté Jérusalem pour Jéricho.
Voilà, c'est-à-dire quitter Jérusalem vers Jéricho va simplement dire s'éloigner de Dieu, s'éloigner de la parole de Dieu, s'éloigner des principes de Dieu, ne plus obéir à Dieu. Ben, tu seras là avec une Bible merveilleuse, parce qu'il y a des belles Bibles aujourd'hui avec des belles couvertures.
Tout à fait.
Mais Dieu ne sera pas avec toi, c'est-à-dire la gloire ne sera pas avec toi. Et les Philistins eurent peur. Malheur à nous, dirent-ils au verset 7, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes,
se disent-ils.
Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont asservis. Soyez des hommes et combattez. Mais regardez, les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu.
Quoique l'arche était avec eux.
Ça, c'est très important.
Quoique des sacrificateurs accompagnaient.
Oui, ça, c'est très important.
Quoique c'était Israël, le peuple choisi de Dieu, le peuple physique.
C'est très important. Israël était le peuple de Dieu. Il livra bataille à beaucoup de peuples. C'est une image pour montrer que nous aussi, enfants de Dieu, chrétiens, parce qu'en fait, à l'époque, on ne pouvait pas, eux, les appeler chrétiens.
Parce que Jésus n'était pas mort pour les péchés des hommes.
Mais sachant que nous aussi, nous sommes soldats. Un soldat est fait pour se battre. Nous sommes soldats. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous donne des armes spirituelles. Revêtez-vous du casque du salut, du bouclier de la foi, de l'épée de l'esprit. C'est parce que nous sommes des soldats. Hein? Comme Paul a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Hein? Nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Mais en connaissant ces choses, nous devons rester à Jérusalem. Parce que notre ennemi, et il est redoutable aussi, sans Christ nous ne pouvons pas le vaincre. Sans Jésus nous ne pouvons rien. Mais avec Jésus, nous sommes déjà vainqueurs parce que Jésus l'a déjà vaincu.
Amen.
C'est ça, c'est très important. Les Philistins livrèrent bataille à Israël. Israël fut battu. Pourquoi? Parce qu'il s'était éloigné de Dieu. Il s'était éloigné de Jérusalem. Il a fait vraiment comme cet homme. Il a quitté Jérusalem. On est au verset 10. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. Donc avant, s'il faut faire la comparaison.
C'était 4 000.
Oui.
Et là, ils sont passés à 30 000. Carrément.
Donc, 30 000 moins 4 000, ça fait.
Ils ont perdu 26 000.
26
000. Il y a eu 26 000 hommes qui se sont ajoutés.
Oui. L'arche de Dieu est venue. En fait, on dirait que l'arche de Dieu est venue amener encore 26 000 morts.
Plus de 26 000 morts.
On ne se moque pas de Dieu, s'il vous plaît. Ça, c'est la Bible qui dit ça. On ne se moque pas de Dieu. Galates chapitre 6, je préfère lire ça. Verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé.
Il doit le moissonner.
Il le moissonnera. Tu peux te moquer des hommes, c'est bon. Ne te moque pas de Dieu. Ça, c'est très important. Regardez encore le verset 11. L'arche de Dieu fut prise. 1 Samuel 4, verset 11. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Vous savez, d'abord, les deux fils ici, c'était des sacrificateurs. Les fils d'un souverain sacrificateur. Mais je ne sais pas comment expliquer, c'était des gens pervers.
Qui vivaient dans le péché.
Oui, mais ils sont allés avec assurance, avec l'arche. Donc, malgré leur désobéissance vis-à-vis de la loi de Dieu, vis-à-vis de Dieu, parce qu'ils n'obéissaient pas aux principes de Dieu, même aux conseils que leur père donnait, ils sont allés avec assurance dans les champs de bataille. Un homme de conscience ne peut pas faire des choses pareilles. Parce que quand tu quittes Jérusalem pour descendre vers Jéricho, les brigands vont te tuer.
Ne t'attends pas à ce que Dieu te protège. Hein? Parce que tu as quitté sa protection.
Oui. Regardez ce que les fils du sacrificateur Élie. Hein, j'insiste parce que dans la Bible, il y a plusieurs Élie. Mais les deux Élie célèbres, il y a Élie, le sacrificateur, et Élie, le prophète. Élie, le sacrificateur, d'ailleurs, quand on écrit, on n'a pas mis un « e » à la fin. Mais Élie, le prophète, il y a un « e » à la fin. Bon, je parle de Élie, le sacrificateur. 1 Samuel chapitre 2, on recule juste un peu d'une page. On commence au verset 12. Il est dit ceci. Les fils d'Élie étaient des hommes
pervers.
Vraiment.
Vas-y, je t'en prie.
Ils ne connaissaient point l'Éternel. C'est-à-dire, ils ne connaissaient pas la parole de Dieu.
Mais ils servaient.
Oui.
Mais ils connaissaient l'Arche de l'Alliance. Mmh. Ils connaissaient tout ce qui était lié au tabernacle.
Mmh. On dirait des gens qui étaient des parvenus. Hein? Des parvenus, des gens qui ne comprenaient pas le vrai sens de ce qu'ils faisaient. Hein? Parce qu'en fait, quand on ne connaît pas Dieu, on ne va pas le servir comme il se doit.
Tout à fait.
On va faire comme les Samaritains. On a amené les Samaritains dans une ville et ils ne connaissaient pas les dieux de cette ville. Ils ont commencé à servir d'autres dieux et des lions venaient les ravager. Il faut connaître Dieu. Parce que quand on connaît Dieu, on ne va plus faire n'importe quoi.
Parce qu'on connaît ses lois, ses exigences,
oui.
ses directives, ses instructions. Mm. Bref, on sait ce que Dieu veut.
Oui. Quand on connaît Dieu et qu'il nous arrive de nous éloigner de lui et qu'un fléau nous arrive, on sait comprendre que ce fléau m'arrive parce que je sais que la Bible dit ceci, cela, donc je dois rentrer. C'est-à-dire, on réagit directement comme Jonas. Jonas connaissait Dieu. Dieu lui avait dit d'aller à Ninive, mais lui, il a choisi d'aller à Tarsis. Et quand le vent a frappé le bateau, Jonas n'a pas réfléchi 5 fois. Il a compris que c'était lui qui a tiré malheur.
C'était lui qui a tiré ce malheur.
Il connaissait, mais ces gens ne connaissaient point Dieu. Et voici quelles étaient leur manière d'agir. On est au verset 12. Voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse. Je peux même sauter. Je viens en verset 17. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes des dieux. Je peux même aller plus loin. C'était des gens qui prenaient même des femmes et qui couchaient avec des femmes là, dans l'endroit du service. Et ce sont ces gens qui sont allés avec l'arche, avec assurance. Et nous avons la présence des dieux. Mes frères, mes sœurs, sacrificateurs. Un sacrificateur, d'abord, c'est qui? Si à l'époque on sacrifiait des animaux, aujourd'hui, notre vie est sacrifiée à Dieu.
Tout à fait.
Alors, si tu es sacrificateur et tu vis dans le mal, ne t'attends pas à ce que l'arche de Dieu te protège. Non, c'est ça ce que ces gens voulaient. Et la Bible nous dit, dans 1 Samuel 4, que l'arche de Dieu fut prise, et les deux fils-là, qui se croyaient être quelque chose, ils ont été tués. Ils sont morts, malgré la présence de l'arche. C'est-à-dire, tu peux avoir une Bible, comme nous disait une maman, qu'en tout cas, il y a eu des chats qui miaulaient devant moi, j'ai pris la Bible, j'ai posé là devant, pour que la Bible puisse les menacer. Non, tu peux mettre la Bible.
Est-ce que t'es tremblé, et toi et ta Bible?
Ce qui est important, c'est ta communion avec Dieu. C'est que tu restes à Jérusalem.
Et ce que tu fais des paroles qui sont dans ce livre.
Ça, c'est très important. Donc, un peu, nous allons peut-être continuer ça là, toujours dans les émissions qui viendront pour insister et dire, reste à Jérusalem. Ne descends pas. Et parce que si tu descends, tu vas te tromper par des faux raisonnements que non, en tout cas, je suis toujours Dieu, toujours avec moi. Non, Dieu, il n'est pas un homme. Dieu, il est souverain. Dieu, il est libre de faire ce qu'il veut. Nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons. Nous devons faire ce que lui, il veut. Ce n'est pas de la dictature, mais c'est pour notre bien. Parce que le monde ici, il est sous la puissance du malin. Et Dieu veut nous épargner de ces choses.
Je voudrais revenir dans Luc 10. Luc 10, verset 30. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. » Quitter Jérusalem pour Jéricho n'est pas une bonne chose. Il y a toujours, toujours des conséquences négatives. Mon frère, ma sœur, vous qui êtes en train de nous écouter en ce moment, peut-être que vous êtes en train de réfléchir pour quitter Jérusalem. Peut-être même que vous avez déjà quitté Jérusalem. Vous êtes en chemin. Peut-être même que vous avez déjà trouvé domicile dans Jéricho. Et si Dieu permet que vous écoutiez cette émission, c'est pour vous réveiller, pour vous dire, attention, il y a un danger là où vous êtes. Revenez à Jérusalem. Il vous aime, il ne vous a jamais chassé de Jérusalem. Il ne vous a jamais chassé de la présence de Dieu. Et le chemin qui ramène à Dieu, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Dieu vivant. Et il vous tend sa main aujourd'hui, il vous dit, mon fils, abandonnez cette vie de péché, parce que les conséquences ne sont jamais positives. Mon frère, ma sœur, si ce message vous a touché, vous voulez dire, frère, je veux prendre un nouveau départ avec Jésus-Christ. C'est très simple, baissez la tête dans la prière et répétez ces simples mots après moi. Dites, Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous voici devant toi. Je te demande pardon. Pardon parce que j'ai quitté ta présence. Pardon parce que j'ai pris une vie de péché. Je prends l'engagement aujourd'hui et jusqu'à la fin de ma vie à suivre Jésus-Christ tous les jours de ma vie et dans tous les domaines de ma vie. Purifie-moi avec le sang de Jésus-Christ. Lave-moi avec le sang de Jésus-Christ. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, Dieu vous a entendu. Je suis Raphaël Mambou, le nom de cette émission est Venez à Jésus. Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours sur le même thème, avec Jonathan Junior Mambou, la parabole du Samaritain. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine.
À la fois prochaine et que Dieu vous aide à rester à Jérusalem.
Amen.
Amen.
L'émission « Venez à Jésus » vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au plus 243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.